Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 13 octobre 2016. Au sommaire ce soir...
Boko Haram libère 21 lycéennes de Chibok au Nigeria. Souvenez-vous, elles avaient été enlevées par les djihadistes il y a plus de 2 ans.
En Centrafrique, selon la MINUSCA, les affrontements à Kagabandoro ont fait plus de 30 morts.
Le Portugais Antonio Guterres, élu prochain secrétaire général de l'ONU. Il succède à Ban Ki-moon le 1er janvier.
Nous ferons le point sur la course à la Maison-Blanche.
Et puis, cette surprise. Bob Dylan, icône de la musique américaine et prix Nobel de littérature.
Bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
En Centrafrique, les affrontements d'hier ont fait 30 morts et 57 blessés à Kagabandoro, dans le centre du pays. La MINUSCA annonce que les casques bleus ont tué 12 assaillants. Arzuma Compaoré.
La MINUSCA déplore que cette violence ait provoqué la mort de 30 personnes et fait 57 blessés à Kagabandoro dans le centre du pays. Les violences ont commencé après la mort d'un milicien ex-Séléka qui tentait avec 3 autres de voler un groupe électrogène d'une radio locale. En réaction, des éléments ex-Séléka ont attaqué les populations civiles, dont les déplacés internes retranchés à l'évêché. D'après le communiqué de la MINUSCA, les casques bleus ont immédiatement réagi pour les repousser, entraînant la mort de 12 assaillants. Les responsables humanitaires et la ministre centrafricaine des Affaires sociales, Virginie Baïkoua, ont condamné à l'unisson ces attaques contre les déplacés et les actes de représailles envers les populations civiles. La Centrafrique peine à sortir du chaos de la guerre civile. La France s'apprête à mettre fin officiellement à l'opération Sangaris à la fin de ce mois.
Dans le nord du Mali, 6 soldats français ont été légèrement blessés dimanche dans la région d'Abeille-Bara. Deux véhicules blindés ont sauté sur une mine ou un engin explosif artisanal, d'après le ministère français de la Défense.
Au Nigeria, 21 lycéennes de Chibok, enlevées par Boko Haram il y a plus de 2 ans, ont été libérées. C'est ce qu'a affirmé la présidence nigériane. Les détails avec Nani Talani.
Les jeunes filles, dont les noms n'ont pas été encore dévoilés, ont été échangées contre 4 prisonniers de Boko Haram, selon une source proche du dossier. Mais Lai Mohamed, ministre nigérian de l'information, a aussitôt démenti, disant qu'il n'y a pas eu d'échange de prisonniers. De son côté, Garba Shehu, porte-parole de la présidence, a assuré que la libération des jeunes filles a été facilitée par le CICR et le gouvernement suisse. Le comité international de la Croix-Rouge n'a pas souhaité faire de commentaires. Tôt ce matin, les filles ont été amenées à Koumché, à 15 km de Banki, près de la frontière avec le Cameroun. Elles doivent être acheminées à Abuja pour recevoir un suivi médical et psychologique. Le 14 avril 2014, près de 276 lycéennes avaient été enlevées par Boko Haram à Chibok. 57 avaient réussi à s'échapper. Et l'une d'elles a été retrouvée par l'armée au mois de mai dernier.
Le président sud-africain Jacob Zuma a déposé un recours en justice pour empêcher la publication d'un rapport d'enquête de la médiatrice de la République sur l'influence présumée de familles d'affaires sur le chef de l'État, Idriss Fall.
À la veille de la publication de ce rapport attendu, Bonganine Kulunga révèle qu'il y a un recours en interdiction qui devrait être examiné mardi par la justice. Monsieur Zuma a été entendu pendant 4 heures jeudi dernier par la médiatrice. L'enquête de Tuli Madonsela vise la riche famille Gupta d'origine indienne soupçonnée d'être intervenue dans la nomination de ministres ou de dirigeants d'entreprises publiques. Le président reconnaît être proche des Gupta, mais a toujours assuré avoir été le seul à décider de l'attribution des portefeuilles ministériels. La médiatrice de la République doit officiellement quitter ses fonctions samedi, après un mandat de 7 ans. Elle a déjà obtenu que le président Zuma rembourse une partie de l'argent public utilisé pour rénover sa résidence privée. Elle sera remplacée par Boussi Siwe Mkrebane, une avocate qui a d'ores et déjà laissé entendre que les affaires de corruption à la tête de l'État ne seraient pas sa priorité.
Et en Afrique du Sud toujours, le chef de l'opposition ultranationaliste Julius Malema comparaîtra devant la justice pour avoir appelé la population à s'approprier illégalement les terres du pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le bureau du procureur général.
En Algérie, d'après le ministère de la Défense, deux dangereux islamistes ont été tués aujourd'hui. Ils ont été abattus à Ouedzour au cours d'une opération de l'armée. L'un d'eux, Sadek Habakh, dit Abu Doujana, était l'émir pour l'est de l'Algérie de John al-Khilafa.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les États-Unis ont bombardé pour la première fois les rebelles chiites houthis au Yémen, accusés d'avoir visé des navires de guerre américains en mer Rouge. Une allégation démentie par les insurgés. Nathalie Barge.
Les missiles Tomahawk tirés par le destroyer USS Nitz ont visé trois stations radar sur la côte de la mer Rouge, selon le porte-parole du Pentagone, Peter Cook, affirmant que les sites ont été détruits. Aujourd'hui, les Houthis ont nié avoir visé la veille un navire de guerre américain. Les affirmations américaines sont sans fondement et les rebelles n'ont rien à voir avec cette action, a déclaré un de leurs responsables militaires. Jusqu'ici, les États-Unis n'étaient pas intervenus militairement contre les rebelles qui contrôlent Sanaa et d'autres régions, limitant leurs actions à des attaques de drones contre Al-Qaïda dans le sud. Soutenus par l'Iran, les Houthis sont engagés avec les forces de l'ex-président Ali Abdallah Saleh dans une guerre civile contre les forces loyalistes, soutenues par une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite.
Deux jours avant une réunion internationale sur la Syrie, à Lausanne en Suisse, Moscou propose un retrait sécurisé d'Alep pour les rebelles anti-Assad. La Russie est disposée à laisser partir les rebelles avec leurs armes. Elle offre aussi le libre passage des civils de la partie est d'Alep et leur retour, ainsi que l'acheminement d'aide humanitaire, selon l'AFP qui cite un général de l'armée russe. La conférence du 15 octobre réunira des diplomates russes, américains et des représentants des pays de la région. Washington a vivement critiqué les bombardements russes sur Alep, notamment visant la population civile.
Les Thaïlandais, toutes tendances confondues, pleurent le décès ce jeudi du roi Bhumibol Adulyadej, à l'âge de 88 ans. À l'étranger, la mort du plus ancien monarque en exercice dans le monde, 70 ans de règne, a également suscité des messages de sympathie. Le président américain Barack Obama a salué la mémoire d'un ami proche des États-Unis et partenaire estimé de beaucoup de présidents américains. Le secrétaire d'État John Kerry a rappelé que le roi Bhumibol était le seul monarque dans l'histoire à être né aux États-Unis.
Une semaine après une recommandation unanime du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale de l'ONU a désigné aujourd'hui le Portugais Antonio Guterres comme successeur du Sud-Coréen Ban Ki-moon. Il deviendra secrétaire général de l'ONU le 1er janvier prochain pour une période de 5 ans. Âgé de 67 ans, M. Guterres est un haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés et ancien Premier ministre du Portugal.
Mercredi soir, des ONG ont pénétré les eaux libyennes pour secourir 113 migrants. Cependant, les secours sont arrivés trop tard pour un garçon de 3 ans et une quinzaine d'autres. Environ 130 personnes, dont au moins 12 femmes et 3 jeunes enfants, étaient entassées sur un canot pneumatique. Il faut dire que depuis le début de l'année, l'Italie a vu débarquer près de 145 000 migrants sur les côtes. Selon l'ONU, au moins 3626 sont morts ou disparus en mer.
En politique américaine, Donald Trump s'en prend à Hillary Clinton et aux médias, particulièrement le New York Times, qui ne cesse de l'accuser d'abus sexuels. Le candidat républicain a mené campagne aujourd'hui en Floride. Nous reviendrons sur la campagne à la présidentielle du 8 novembre en partie magazine. Voilà pour ce journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et sans perdre de temps, John Lennon va nous donner un aperçu sur les nouvelles économiques d'Afrique et d'ailleurs.
Le Fonds monétaire international FMI et la Côte d'Ivoire sont parvenus à un accord préalable en vue d'un programme économique de 674 millions de dollars sur 3 ans. Cet accord devrait encore être soumis à l'examen du conseil d'administration du FMI en décembre prochain. Mais d'après le magazine Jeune Afrique, le programme soutiendra les principaux objectifs du PND, le Plan national de développement de la Côte d'Ivoire, pour la période 2016-2020 et dans lequel l'État ivoirien entend investir plus de 29 000 milliards de francs CFA au cours des 5 prochaines années. En Mauritanie, le gouvernement et Kosmos Énergie Mauritanie ont signé un contrat d'exploration-production de pétrole en offshore, a annoncé dans un communiqué le ministère mauritanien du pétrole. Le pays, qui a rejoint le club de producteurs de pétrole en 2006, a vu sa production se stabiliser à 8 000 barils par jour, réalisant des entrées en devises de près de 12 millions de dollars pour l'État mauritanien en 2015. Le gouvernement camerounais a signé début octobre 3 conventions avec la filiale espagnole de la Banque allemande. D'après le magazine Jeune Afrique, ces accords, qui portent sur un montant global de 30 milliards de francs CFA, doivent permettre de financer l'achèvement de la boucle électrique de la capitale Yaoundé. Le 13 décembre, la filiale espagnole de la Banque allemande avait déjà accordé 21 milliards de francs CFA au Cameroun pour aider à la première phase de l'aménagement du lac municipal de Yaoundé afin d'en faire un centre touristique.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
La FIFA enquête sur la célébration du but de Serge Aurier.
Une enquête préliminaire de la FIFA a été lancée sur le geste mimant un égorgement effectué par le défenseur du PSG. C'était lors du match Côte d'Ivoire-Mali samedi dernier. Victoire 3-1 pour les Ivoiriens lors de ses qualifications pour le Mondial 2018. Le geste du joueur parisien avait agité les réseaux sociaux, suscitant sarcasme ou messages de défiance à l'égard des médias. Lors de ce match samedi dernier, Aurier avait eu aussi un geste honorable puisqu'il avait évité à un joueur d'avaler sa langue après un choc dans un duel.
En Angleterre, Chelsea et Nike s'engagent pour 15 ans et près d'1 milliard d'euros.
Chelsea et l'équipementier américain ont annoncé avoir signé un contrat record de 15 ans d'une valeur de près d'1 milliard d'euros selon la presse britannique. Le partenariat débutera la saison prochaine. Il sera valable jusqu'en 2032. Les Blues restent équipés par Adidas jusqu'à la fin de la saison. Selon plusieurs médias anglais, Chelsea touchera 66 millions d'euros par saison. Le partenariat équipementier club le plus lucratif pour le moment reste celui de Manchester United. Entré en vigueur la saison dernière, il rapporte jusqu'en 2026 aux Red Devils 83 millions d'euros par saison.
En tennis, Djokovic en quart à Shanghai.
Oui, Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai en dominant le Canadien Vasek Popsisil, 131e joueur mondial, le score 6-4-6-4. Djokovic, qui vise un 4e trophée en Chine où il est tenant du titre, affrontera au prochain tour l'Allemand Mishka Zverev, 110e joueur mondial, qui a créé une surprise en écartant un peu plus tôt l'Espagnol Marcel Granollers, 43e joueur mondial, le score 6-7-6-4-6-1.
Merci Nicolas.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Retour sur la crise politique en République démocratique du Congo. Une crise qui a déjà fait plusieurs morts lors de manifestations pour réclamer le départ du président Joseph Kabila, comme le prévoit la Constitution. Comment relancer le dialogue politique avec l'inclusion de toutes les parties qui peuvent mettre un terme à la crise et aux violences? Qu'attendez-vous du sommet international de Luanda? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guériec et chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, la République démocratique du Congo.
Quelques militants et cadres du PPRD en désaccord avec le gouverneur Marcelin Tshishambo du Sud Kivu ont entamé une grève de la faim au siège de leur parti politique. C'était pour protester contre l'arrestation de trois cadres du PPRD, dont le secrétaire fédéral Alain Tambuka. Alors, son interpellation est intervenue à la suite d'un sit-in organisé le 11 octobre devant la résidence officielle du gouverneur. Les détails avec notre correspondant sur place, Ernest Mouhiro.
Tout est parti lorsqu'une trentaine de militants du PPRD fidèles au secrétaire fédéral Alain Tambuka sont venus observer la matinée du mardi 11 octobre un sit-in en face de la résidence du gouverneur du Sud Kivu Marcelin Tshishambo dans la ville de Bukavu. Sous des chants et animations, ces manifestants visiblement jeunes pour la plupart ont affirmé qu'ils ne quitteront pas ces lieux sans être reçus par le gouverneur dont ils sont porteurs d'un message du parti. Message qu'ils se sont refusés de livrer officiellement à la presse, mais officieusement, ils évoquent sa démission aux affaires, car disent-ils, ils bloquent l'émergence du PPRD au Sud Kivu. Le 12 octobre à 7h30, le sit-in est dispersé par la police. Bernard Zagabe, le président de la Ligue des jeunes du PPRD Sud Kivu.
Nous, on a décidé de passer nuit sous la belle étoile. Jusqu'au petit matin, il n'a pas été disposé à nous recevoir. Curieusement, on a vu les policiers venir. On n'avait pas les armes, rien d'agressivité. On était assis, il y a des témoins, et ils ont décidé de tirer directement sur nous. Des gaz lacrymogènes, balles à plastique, on était dispersés.
Pour Désiré Kiakwima, coordonnateur de la cellule des communications du gouverneur Tshishambo.
Venir faire un sit-in devant le chef de son parti au niveau de la province, je ne pense pas que ça relève autrement qu'une rébellion. Une certaine opinion pense que les amis servent de camions balais pour des adversaires du gouverneur de province. Le chef de l'État, en ce moment-ci, a besoin de l'unité de notre parti.
Au sujet de l'intervention musclée de la police sur les manifestants non armés qui s'est soldée par l'interpellation des trois cadres du PPRD dont le chef de file Alain Tambuka, Kiakwima affirme que ce n'est pas le gouverneur qui a envoyé la police, ce sont plutôt les voisins de sa résidence qui se sont plaints. Les manifestants se sont retranchés au siège du PPRD à Bukavu où ils viennent, selon les dires du président de l'air Luc Desjeunes, d'amorcer une grève de faim. Bernard Zagabe.
Tous les membres viennent de décider à partir de ce soir de déclencher une grève de faim ici au bureau pour compatir avec tous ses compatriotes Alain et deux autres cadres du parti qui sont avec lui au cachot jusqu'à ce qu'ils puissent nous rejoindre. On ne va pas lâcher, nous sommes prêts d'y aller jusqu'au bout.
Signalons que d'ici novembre, cela fera 2 ans depuis que la division règne au sein du PPRD Sud Kivu entre l'interfédéral de ses partis Marcelin Tshishambo et Alain Tambuka, le secrétaire fédéral du parti. De Bukavu, Ernest Mouhiro, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Retour sur la crise politique en République démocratique du Congo. Une crise qui a déjà fait plusieurs morts lors de manifestations pour réclamer le départ du président Joseph Kabila, comme le prévoit la Constitution. Comment relancer le dialogue politique avec l'inclusion de toutes les parties qui peuvent mettre un terme à la crise et aux violences? Qu'attendez-vous du sommet international de Luanda? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le Portugais Antonio Guterres a été élu secrétaire général de l'ONU aujourd'hui. Ancien haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés et ancien premier ministre, M. Guterres a été recommandé la semaine dernière à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Jean-Victor Nkolo, porte-parole du président de l'Assemblée générale, joint au téléphone par Anastasie Tudiesch, analyse les défis qui attendent le successeur de Ban Ki-moon.
Bien, ce sont les questions de paix et de sécurité, mais c'est aussi les questions, je dirais, de la lutte contre toutes sortes de violences et d'intolérances qui affectent le monde nouveau que nous connaissons maintenant. Et je crois que M. Guterres sera un très bon apôtre, non seulement de la non-violence, mais aussi de la médiation, de la prévention des conflits. parce qu'il ne faut pas seulement les gérer, il faut parfois les prévenir. Et je crois que les auditeurs et les observateurs peuvent se référer à la force de ces discours, à la force de ces propos, mais aussi à la force de ces convictions. Et je crois qu'au-delà de la Syrie, les questions de paix et de sécurité en Afrique, les questions de développement, les questions des pays émergents, mais aussi la question qui reste centrale de la réforme des Nations Unies, en commençant par la réforme du Conseil de sécurité. Il y a beaucoup de questions qui ne vont pas partir demain, qui ne vont pas être réglées du jour au lendemain, mais je pense que la famille des nations, la communauté internationale, a trouvé en M. Guterres un travailleur qui, non seulement a la finesse de la diplomatie, mais aussi peut gérer plusieurs choses à la fois, comme on dit en anglais, un multitasker.
Alors, justement, l'Afrique que vous avez évoquée, autre immense chantier à l'ONU, où la probité des casques bleus est remise en cause. Certains d'entre eux ont été accusés de viol.
Vous savez, les questions de maintien de la paix sont véritablement centrales parce que l'ONU, effectivement, a eu à gérer quelques-uns de ces doutes, quelques-uns de ces crimes allégués et quelques-unes de ces situations très difficiles. Mais je pense qu'il faut voir au-delà. Il faut évidemment avoir une tolérance zéro par rapport à ces manquements. Mais je crois que le secrétaire général des Nations Unies, le nouveau, M. Guterres, comme les autres, encore plus M. Guterres, fera preuve, à mon avis, de vision, de clairvoyance, mais aussi de très grande fermeté par rapport à ces questions. Il faut voir les difficultés structurelles, fondamentales, auxquelles le maintien de la paix est confronté. Il y a des questions bien plus importantes, à mon avis, qui feront l'objet, à mon avis, d'une réflexion, mais aussi d'une action très importante dans les prochains mois.
Jean-Victor Nkolo, porte-parole du président de l'Assemblée générale de l'ONU.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le prix Nobel de littérature a été décerné ce jeudi 13 octobre au chanteur américain Bob Dylan. Une surprise. Le chanteur américain a été récompensé pour avoir créé, dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine, de nouveaux modes d'expression poétique. Et Salwa Jafari revient sur son parcours.
Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan.
L'assistance dans la majestueuse salle de la Bourse à Stockholm n'a pas caché son enthousiasme, mais dans la salle, il y avait aussi beaucoup de bouche bée. Bob Dylan est le premier musicien à être récompensé par l'Académie depuis la création du Nobel en 1901. Elle a tenu à défendre ses arguments.
Bob Dylan écrit une poésie pour l'oreille qui doit être déclamée. Si l'on pense aux Grecs anciens, à Sappho, Homère, ils écrivaient aussi de la poésie à dire, de préférence avec des instruments. Il est extrêmement doué pour la rime. C'est un littéraire qui convoque la grande tradition et peut marier de façon absolument novatrice des musiques de genres différents, des textes de genres différents.
Blowing in the wind, knocking on heaven's doors like a rolling stone. Des textes puissants, une discographie imposante. Avec son folk rock lettré, ses lunettes noires et sa voix rock, Bob Dylan est passé du troubadour folk à l'aube des années 60 à la superstar décorée en 1912 par le président américain Barack Obama. Ce n'est pas la première fois que l'Académie surprend. En 1953, elle avait décerné le Nobel de littérature à l'homme d'État britannique Winston Churchill. Here comes the story of the hurricane. The many authorities came to blame. Ce prix Nobel a suscité plusieurs réactions. Du côté des critiques, l'écrivain français Pierre Michon a ironisé sur Twitter. Bob Dylan, pourquoi ? Alors Murakami peut gagner le Ballon d'Or. Salman Rushdie a lui vanté « Super choix », le qualifiant de brillant héritier de la tradition des bardes. Et Bob Dylan compte aussi des fans parmi les membres de cette rédaction. Le sens du rythme n'y est pas, mais la passion.
Here comes the story of the hurricane. The man of Torres just came to blame for something that he'd never done. Put him in a prison cell.
Do everything turn, turn, turn. There is a meaning. Turn, turn, turn.
It's getting dark, too dark to see.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump se bat sur deux fronts pour sauver sa campagne, contre les allégations de plusieurs femmes l'accusant d'abus sexuels et contre ceux des républicains désertant son camp. Une situation qui relègue au second plan le scandale des emails piratés auxquels fait face sa rivale démocrate Hillary Clinton. Alors, Timothée Donangmai, on fait le point?
Le candidat républicain avait espéré, au deuxième débat, tourner la page de la vidéo controversée de 2005 dans laquelle il dit avoir touché et embrassé des femmes contre leur gré. Sous le feu des questions de l'un des modérateurs, l'homme d'affaires avait assuré qu'il s'agissait simplement de propos de vestiaire et qu'il n'avait jamais agi de la sorte. Cet aveu a eu l'effet contraire puisque le New York Times, le Palm Beach Post ainsi que le People Magazine ont publié des témoignages d'au moins 4 femmes qui l'accusent d'agression sexuelle, des allégations rejetées en bloc par Donald Trump.
Loin de battre en retraite, le candidat républicain poursuit sa stratégie de ressortir les aventures extra-conjugales passées de l'ancien président Bill Clinton. Timothée.
La vidéo publiée la semaine dernière a amené plusieurs personnalités du Parti républicain à retirer leur soutien à Trump, certains l'appelant même à abandonner la course. D'autres républicains estiment que ce serait une trahison d'abandonner Donald Trump, le candidat élu de leur parti. Pour ceux des élus républicains faisant face à une élection en novembre, c'est un problème d'une grande complexité compte tenu du soutien dont bénéficie Trump au sein de la base du parti. Pour sa part, le candidat républicain a décidé d'axer ses attaques sur les accusations passées d'infidélité contre le président Clinton. Avant le deuxième débat, la semaine dernière, il avait invité 3 des accusatrices de Bill Clinton à prendre part avec lui à une conférence de presse, un coup qu'il pourrait rééditer durant le reste de la campagne. Dans ses meetings, il martèle que sa rivale démocrate Hillary Clinton doit non seulement être défaite en novembre, mais être envoyée en prison pour avoir détruit des milliers de ses emails qui faisaient l'objet d'une enquête. Il met en cause la crédibilité de Mme Clinton en ce moment où de nouveaux emails publiés par WikiLeaks donnent une idée des vives inquiétudes de l'équipe de campagne de l'ancienne secrétaire d'État.
Il faut dire aussi que la campagne électorale atypique de cette année aux États-Unis est diversement perçue par les auditeurs de VOA Afrique.
Comme bien Kaoté de Bangui écrit sur Facebook, on ne jette la pierre que dans l'arbre qui porte beaucoup de fruits. Si on accuse Trump, c'est justement parce qu'il a beaucoup d'atouts et peut compromettre ces vampires qui mettent le monde à feu et à sang. Les femmes racontent souvent des histoires absurdes, écrit pour sa part Nicole Kalonji. Zano Madukone, lui, pense qu'Hillary Clinton sera présidente, et ce grâce à Trump, mais qu'elle sera un espoir déçu comme Hollande en France. Benoît Ngongo de Kinshasa est de l'avis contraire. Pour lui, Trump est le favori.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Ainsi va le monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.